Ainsi confronté de force à l'éventualité de ma mort, à ce que je désirais et voulais de ma vie, aussi courte soit-elle, priorité et omission me sont apparues violemment, sous une lumière implacable. Et ce que j'ai le plus regretté, ce sont mes silences. De quoi avais-je donc eu si peur? J'allais mourir, tôt ou tard, que j'aie pris la parole ou non. Mes silences ne m'avaient pas protégé. Votre silence ne vous protégera pas non plus.
Mais à chaque vraie parole exprimée, à chacune de mes tentatives pour dire ces vérités que je ne cesse de poursuivre, je suis rentré en contact avec d'autres femmes.
Et, ensemble, nous avons recherché des paroles s'accordant au monde auquel nous croyons toutes, construisant un pont entre nos différences.
Bonjour Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel.
Bonjour. Bonjour.
Quel est le texte que vous venez de nous lire ?
Donc là, on vient de lire un texte d'Audrey Lorde, en fait, qui fait partie d'un recueil d'essais, et où elle parle de l'érotisme, de la sexualité, de la poésie et du racisme.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'entrer dans l'émission avec ce texte ?
Audrey Lorde, c'est une auteure qu'on aime beaucoup. Elle a écrit des textes qui sont malheureusement encore vraiment d'actualité, alors qu'elle les a écrits dans les années 60. Et aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé avec les crises sanitaires et les prises de parole sur les inégalités sociales, le racisme, etc., on s'est dit que c'était important de citer cet auteur qui nous tient à cœur.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la première du MAG de l'été, le magazine culturel estival de France Inter. J'aurai la joie d'accompagner vos débuts de soirée pendant tout ce mois de juillet dans une configuration inédite puisque cette année, le MAG de l'été de la semaine sera en itinérance sur les routes de France. Alors en cette période de grande incertitude pour les artistes, où l'on a vu nombre de festivals s'effondrer comme des chacots de cartes, coupés dans leur élan, France Inter a choisi de soutenir plus que jamais la culture en allant à la rencontre des artistes. C'est tout un périple que nous allons vous proposer à l'est, à l'ouest, dans le sud pour commencer. Et nous verrons que les contraintes sanitaires n'ont pas eu raison de la créativité, puisque de nouvelles formes s'inventent un peu partout, comme de jeunes pousses qui émergent et recolorent le gris paysage d'une vie sans culture. Nous avons choisi pour ouvrir le bal de notre programmation de mettre la jeunesse à l'honneur. C'est au Ballet National de Marseille que nous sommes accueillis aujourd'hui par La Horde, le collectif qui vient, il y a quelques mois, d'en prendre la tête.
France Inter. Le MAG de l'été. Anna Sigalevitch.
Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel, merci de nous accueillir ici chez vous au Ballet National de Marseille, dont vous avez pris la tête donc en septembre dernier. Alors première question, est-ce que c'est vous qui avez choisi Marseille ou est-ce que c'est Marseille qui vous a choisi?
Bah, bienvenue déjà.
Arthur Harel.
Oui, alors bonne question, est-ce que c'est Marseille qui nous a choisi ou nous qui avons choisi Marseille? Un peu des deux, c'est vrai que Marseille depuis des années nous apparaissait comme une ville avec des multiples facettes. Et ça faisait vraiment longtemps qu'on en discutait entre nous. Et on a vu apparaître l'appel à projet du ministère de la Culture. Mmh. Et on s'est dit, on va écrire un manifeste et se dire que c'est possible pour trois jeunes artistes de proposer une candidature pour accéder à ce genre d'institution et redéfinir ce que peut être un ballet aujourd'hui.
Est-ce que le métissage de la ville, hein, son énergie qui est vraiment particulière, infuse votre créativité ? Marine ?
Oui, bah effectivement, on essaye de proposer un projet qui soit en adéquation un peu avec l'identité de la ville. Après, c'est très particulier parce que je pense que la ville, justement, elle est faite de milliers d'identités différentes.
On dit qu'elle est d'ailleurs, qu'on met du temps à découvrir Marseille. Ouais, c'est pas une ville qu'on peut appréhender comme ça.
Non, ouais. Pas du tout.
Elle est faite de centaines de petits villages.
Ouais, mais je pense que la pluralité, c'est peut-être quand même ce qui nous a apparu plus en résonance avec nos pratiques déjà au départ.
Et qu'est-ce que vous avez découvert au fil de cette première saison passée ici, Jonathan Debrouwer ?
La richesse culturelle de la ville de Marseille, la diversité, les différences culturelles aussi, c'est ce qui fait la force en fait de Marseille. Et le Ballet National de Marseille, justement, a cet ADN. Et en fait, il suffit juste de remettre un peu de braise, justement, pour qu'elle reprenne toute son aura.
C'est un endroit qui...
qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'un million d'années. Et toujours en été, y'a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse, y'a plein de chiens, y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'un million d'années.
Le Sud par Alain Bachung, reprise de la chanson bien sûr de Nino Ferrer sur France Inter. Vous chantiez pendant la chanson, c'est toujours agréable hein, d'entendre le Sud.
Alors, on se laisse facilement avoir par Bachung.
Alors nous sommes au Ballet National de Marseille avec le collectif La Horde, collectif formé en 2013. Alors Marine Brutti et Jonathan de Brouwer, vous venez des arts décoratifs. Arthur Harel, vous venez du champ chorégraphique. Comment et sur quelle base s'est formé votre trio ?
Oui, ben, au départ, effectivement, Joe et moi, on était à l'école ensemble. Mm-hmm. On était en art 3, hors format, performance. Et ensuite, quand on
art
est rentré.
Art 3, hors format, performance.
Ouais, c'était le nom du.
C'était comme.
C'était art hors format, en fait.
D'accord.
Et du coup, quand on est rentré à Paris, on a rencontré Arthur. Oui. Et en fait, au départ, il y a l'espèce de capital sentimental. C'est-à-dire que les jeunes artistes, quand ils sortent d'école, ils n'ont pas vraiment les moyens de faire les choses. Et donc, il y a beaucoup d'entraide. Et en fait, on a commencé à s'aider les uns les autres sur les projets. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on coécrivait et que c'était important de créer quelque chose au-dessus de nous. Donc, on a créé la Horde. Et c'était vraiment comme une espèce de maison dans laquelle on trouvait refuge pour pouvoir faire émerger des projets ensemble.
Arthur, vous venez de quelle formation chorégraphique?
Ben moi, j'ai un parcours plutôt autodidacte. C'est vrai que j'ai trouvé dans la rencontre avec Marine et Jonathan ma formation en art au final. Et c'est vrai que c'est dans cette rencontre-là qu'on s'est auto-formés les uns les autres et qu'au final, aujourd'hui, le collectif, il est extrêmement transversal au niveau des pratiques. On travaille tous à la réalisation chorégraphique, visuelle. Et il n'y a pas vraiment de
rôle établi.
Exactement.
Oui, la transversalité, la porosité, le dialogue des arts, c'est vraiment totalement au cœur de votre collectif à tous les trois.
Ouais.
Alors le nom, La Horde, fait référence au roman de science-fiction La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, qui sera d'ailleurs notre invité dans le Mac de l'été demain. La Horde du Contrevent met en scène un groupe qui se soude pour faire face à l'adversité d'une tempête de sable. Alors à quelle adversité devez-vous faire face tous les trois ?
Oh, y en a tellement, je ne sais pas. Vous voulez commencer par laquelle ?
Non, mais celle qui a donné
force. Ouais. Bah, c'est vraiment au départ, je pense que c'est ça. C'est quand on veut faire exister une voix, quand on veut tenir un discours, quand on veut raconter des histoires, c'est très difficile de trouver des personnes à l'écoute dans nos institutions. Et du coup, on s'est fédéré pour vraiment se solidifier et s'accompagner dans cette recherche. Et comme ça, notre recherche est devenue collective. Je pense que le collectif, ça se définit pas en amont. On se dit pas, tiens, on va fonder un collectif.
Oui. On Par commence contre, à travailler le... ensemble, à avoir envie de monter des projets. Ouais. Au départ, un petit peu improvisé, comme ça. Et puis, petit à petit, finalement, vous construisez une œuvre tous les trois et ça devient un collectif. Alors, la Horde, ça s'écrit L-A entre parenthèses. Est-ce que je peux vous demander ce que signifie cette parenthèse?
C'est vrai qu'on est tous passés par l'envie de créer un groupe de rock. C'est vrai qu'on a écrit la Horde comme on trouve un nom de groupe de rock avec cette envie d'être à la fois féminin, rassembleur, sans déterminer un nombre en particulier. D'ailleurs, on est tous les trois les fondateurs de la Horde. Mais Alain Damasio, d'ailleurs, nous a rejoint avec Rhône pour la création au Châtelet.
Oui. On a cette Room with a View.
Pour Room with a View, oui. Et en fait, on a cette volonté d'être hyper inclusif et de travailler de manière très transversale, que ça soit avec les danseurs, techniciens, scénographes. Donc, c'est vraiment une volonté de travailler ensemble et de mettre l'œuvre au centre de nos discussions, ce qui fait qu'il n'y a pas de problème d'ego. Et ce qui fait qu'on est dévoué ensemble à la réussite, en tout cas au risque de créer quelque chose ensemble.
Et on a juste mis le genre entre parenthèses, c'était peut-être une petite blague interne.
Alors, vous êtes jeunes, hein, tous les trois, vous n'aviez jusqu'à présent dirigé aucun centre chorégraphique national. Quel est vraiment le projet que vous avez proposé, qui vous a mené quand même à la tête du Ballet National, qui est une structure importante, hein. C'est pas rien d'être ici, vous êtes deux jeunes trentenaires, de prendre la tête de cette structure qui est aussi une école, hein. Qu'est-ce que vous avez trouvé en arrivant ici, Jonathan de Brouwert?
C'est vrai qu'on a vu l'appel à candidater, on s'est dit justement qu'on allait écrire un manifeste, comme Arthur en a parlé tout à l'heure, un projet qui nous ressemble. On voulait vraiment pas faire un projet justement pour faire plaisir. Nous, on a une vision très plurielle et on trouve que les outils aujourd'hui doivent l'être en tout cas. Et en fait, le Ballet de Marseille, pour nous, ça allait pas devenir notre chapelle, mais ça allait être un outil justement de création qui allait pouvoir servir à plein d'artistes. Pas que forcément à des artistes chorégraphiques, mais à des artistes aussi de champ plastique. On fait des films, donc on va inviter aussi plein de réalisateurs. Et en fait, c'est justement de pouvoir ouvrir et donner les clés justement aux jeunes artistes.
Aux jeunes artistes. Alors le Ballet National de Marseille, c'est quand même toute une histoire, hein. Il faut rappeler qu'il a été créé en 72 par le chorégraphe Roland Petit, disons néoclassique. Ensuite, il y a Marie-Claude Pietragala, ancienne danseuse étoile, qui l'a dirigé. Ensuite, il y a eu d'autres personnes qui l'ont dirigé. Donc c'est un ballet qui a une histoire, un héritage. Il y a 18 danseurs permanents aujourd'hui. Il y en aura 22, m'avez-vous dit, à partir du mois prochain, pour la saison prochaine. Est-ce qu'il y a un héritage dont vous êtes un petit peu dépositaire à transmettre, ou est-ce que tout est à réinventer et vous êtes vous cassez un petit peu les codes de ce que vous avez trouvé pour proposer votre projet?
Je pense que c'est un mélange des deux, en fait. C'est à la fois un retour aux sources et une ouverture à la danse contemporaine et aux danses plurielles. Donc en fait, il y a deux élans. Déjà, il faut comprendre que les centres chorégraphiques nationaux, il y en a plein partout en France, et que c'est très important de penser aussi qu'on fait partie d'un groupe et qu'on est là pour défendre une certaine vision de la danse, mais qu'on ne défend pas la vision unique d'une certaine danse. Et donc à ce moment-là, on était assez serein parce qu'on s'est dit, de toute façon, on est à plusieurs, il y a plusieurs autres centres chorégraphiques, peu importe ce qu'on propose nous, on n'a pas cette pression de penser que c'est la définition de la danse d'aujourd'hui.
Ensuite, le Ballet National de Marseille n'est pas la Horde.
Non,
pas
c'est
que. Pas que.
Oui, oui, je comprends. Nous, on a décidé de faire plutôt un peu œuvre en la structure, en fait, plus que ce soit le réceptacle de nos envies et de notre écriture juste à nous.
C'était important pour nous de garder le mot de ballet. Plutôt que de réinventer et de casser les codes, ça n'a jamais été une perspective ou une envie, une dynamique. On parle plutôt de réinvestir, de re-questionner et réinvestir nos vocabulaires, faire la guerre des imaginaires, comme parle Alain Damasio si bien de tout ça. C'était important pour nous de réinvestir le terme de ballet pour qu'il soit le refuge de tout plein d'artistes qui ont envie de se confronter à un groupe et d'écrire des choses avec eux.
Et c'est vrai que l'esprit de collaboration, Roland Petit, il était déjà très fort
Absolument.
De proposition. Il a travaillé avec les Rolling Stones,
Pink Floyd.
Il aurait pu travailler aussi avec les Rolling Stones. Kessa Wing.
Ils ne seraient pas très contents, les Rolling Stones.
Ils
étaient trop jeunes.
mais voilà, il essayait de décloisonner justement en travaillant avec des plasticiens, des musiciens. Et c'est vrai que en fait, aujourd'hui, ça existe encore. Il faut juste ouvrir et rassembler.
Alors, on va parler un peu de votre vocabulaire à vous, de votre langage chorégraphique. Vous vous intéressez beaucoup aux danses post-internet. Alors, est-ce que vous pouvez juste nous expliquer un petit peu ce que ça signifie pour vous, ce terme ou ce concept de danse post-internet?
Marine. Post-internet, en fait, dans un collectif, on doit beaucoup parler, on doit beaucoup échanger. Et donc, parfois, on doit beaucoup nommer les choses. Et en fait, c'est un néologisme qui est né entre nous, de post-internet, où on a repris vraiment le terme post de l'art contemporain. Il y avait l'art post-internet, qui était l'art qui se faisait en réseau, le fait qu'on pouvait être averti de tout ce que faisaient les artistes dans le monde entier grâce aux réseaux sociaux, voir ce qui se passe dans un atelier, dans une story Instagram, être vraiment à toutes les étapes de la création d'une œuvre, et surtout beaucoup s'influencer et comprendre un peu le message d'une génération. Et donc nous, on l'a juste adopté comme ça entre nous, et les premières fois qu'on l'a évoqué en interview, etc., d'un seul coup, c'est devenu
un mot.
Oui.
Voilà. Alors, disons que la danse post-internet, pour reprendre ce mot, il y a une pièce que vous avez créée en 2017, je crois, dont on a beaucoup parlé, qui s'appelle Taux d'abonne, dont, voilà, il est question de ce qu'on peut donc appeler la danse post-internet, mais il était surtout question de jump style, qui est là pour le coup un style bien précis de personnes qui se filment, de communautés extrêmement internationales. Comment vous avez découvert le jump style et pourquoi vous avez eu envie de l'utiliser dans votre spectacle Taux d'abonne? Jonathan de Brouwer ou Arthur Harel ou Marine, comme vous voulez.
Oui, alors c'est vrai que nous, on parle de danse post-internet au pluriel, et le jump style est un exemple parfait, voilà. un cas d'école, on va dire, même maintenant. C'est des jeunes gens, des jeunes garçons essentiellement, issus de l'Europe de l'Est principalement, qui apprennent à danser via des tutoriels sur internet, d'abord dans leur chambre, puis ensuite quand ils gagnent en maturité et qu'ils ont partagé des vidéos sur internet, ils passent à danser dans leur salon, puis après dans la cour arrière de leur maison, jusqu'à espace public. Oui. Et on trouvait que grâce à Internet, ils déployaient comme ça une culture, une histoire qui ne faisait que grandir avec une certaine esthétique, et qu'on était vraiment dans l'archétype type d'une écriture chorégraphique. Et donc, dans cette volonté de briser les frontières à travers Internet, on est rentré en contact avec eux à travers leur chaîne YouTube, et on les a d'abord rencontrés par Internet. Certains se connaissaient depuis des dizaines d'années, parlaient ensemble avec des multiples langues, mais surtout grâce à Google Translate. Et puis de fil en aiguille, à travers d'abord une première performance, puis ensuite un film, on est arrivé à créer une pièce d'une heure et quart avec eux.
Ce qu'on a trouvé très beau aussi, c'est que c'est des jeunes qui étaient complètement isolés,
oui.
et qui ont réussi justement à se connecter via Internet et créer cette communauté.
Alors, on va écouter une archive de l'INA qui date de 1936. C'est le philosophe Henri Bergson qui s'interroge: quel est l'objet de l'art?
Quel est l'objet de l'art? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature.
Vous êtes sur France Inter dans le Mac de l'été. Nous sommes au Ballet National de Marseille avec Marine Brutti, Arthur Harel et Jonathan de Brouwer, les trois membres du collectif La Horde, un nouveau directeur de cette institution. Alors, cette archive pépite dénichée par ma collaboratrice Elodie Royer est très intéressante par rapport, je trouve, à votre travail, parce qu'elle soulève, me semble-t-il, deux questions. La première, on a besoin du point de vue des artistes pour révéler l'art dans le réel. Et la deuxième, est-ce que près d'un siècle plus tard, c'était 1936, cette archive, et avec les nouvelles technologies dont on dispose, est-ce que tout le monde est artiste et est-ce que tout le monde peut créer? C'est des questions qui vous travaillent, je crois, tous les trois.
Mm-hmm. Je pense que Marine, l'exemple le plus probant, peut-être, c'est quand on était encore à l'école. Ouais. Et que YouTube est devenu genre massif, alors que moi j'avais économisé pour m'acheter ma première caméra, et qu'on regardait des heures de vidéos d'amateurs qui se faisaient et qui étaient absolument, de formats auxquels on n'était absolument pas habitués. Et on s'est dit, ça y est, c'est foutu, quoi. On n'aura jamais de travail, on pourra jamais travailler. Et en même temps, je pense que c'est une utopie qui est assez belle. Tout le monde artiste, Ensuite, il y a plusieurs manières de se définir en tant qu'artiste. Mmh. Et le rôle qu'on prend dans la société, la manière dont on vit, etc., c'est pas la même chose que être créatif et proposer des choses.
Oui.
Et c'est un choix politique qui se place ailleurs, je pense.
Et puis clairement aussi, par exemple, dans Todabon, il y a cette proposition des gens qui se filment chez eux et vous qui construisez la dramaturgie et qui les mettez en scène d'une certaine façon. Et c'est là aussi le geste de l'artiste, me semble-t-il.
Oui, et puis il y a beaucoup aussi d'échanges et de consentement avec ces interprètes qui viennent d'un milieu chorégraphique très underground, avec leur culture, leur histoire. L'idée pour nous est de toujours travailler en collaboration, dans le consentement. Et c'est vrai qu'on est... on a une part de nous trois qui sommes fascinés par ces communautés qui se créent alors que ces jeunes garçons étaient plus voués à faire du tennis ou du foot et qui ont été pris par surprise par l'art. C'est Françoise Sagan qui dit que l'art prend par surprise la réalité. Et c'est vrai que nous, on fait souvent de la réalité une fiction et on a besoin de rencontrer des gens qui ne nous ressemblent pas forcément ou qui ensuite n'ont pas forcément accès aux mêmes outils que nous pour qu'on les partage et qu'on découvre en même temps et leur histoire et que nous, on leur fasse découvrir nos outils.
Alors, votre dernier spectacle, Room with a View, a été présenté juste avant le début du confinement. C'était début mars au Théâtre du Châtelet, avec donc les 18 danseurs du Ballet National de Marseille. C'est un spectacle qui prend place dans un décor particulier, d'ailleurs qui est toujours en place, je crois, puisque en fait, c'était le dernier spectacle et comme il y a eu le confinement,
il vient, il vient d'être démonté.
Voilà, ouais. Bon, très beau, je dois dire, hein, ce décor. C'est une sorte de carrière de marbre, dites-vous. Moi, j'ai pensé aussi aux ruines d'un amphithéâtre, quelque chose de il y a à la fois quelque chose de très contemporain et d'antique dans ce décor.
Oui, bah c'est effectivement quand on a voulu mettre en place ce spectacle, déjà il y a eu beaucoup de discussions entre Rhône et nous et on s'est dit qu'on avait envie de parler de l'effondrement mais plutôt même des effondrements. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs et on est en train de voir en ce moment d'ailleurs comme tout se met en place. Il y a les effondrements qui sont positifs, celui par exemple du patriarcat, et il y a des effondrements qui sont bien plus dramatiques, par exemple les effondrements écologiques, les crises sanitaires. Et du coup, dans ce spectacle, on avait besoin de trouver un cadre pour les danseurs et pour Erwan. Et en fait, on a réfléchi pendant longtemps.
Erwan qui est donc Rhône.
Oui, pardon.
Oui. Non,
et on a réfléchi pendant longtemps à ce qui pourrait faire sens. Et au départ, il fallait définir le groupe. Mm-hmm. Et en fait, pour nous, les danseurs du ballet, c'est une espèce de communauté éphémère de danseurs qui se réunissent ensemble et qui sont des penseurs par le corps. C'est-à-dire qu'ils ne font pas qu'exécuter des mouvements bien faits et bien pensés. Ils réfléchissent et ils vivent des émotions avec le corps. Et pour le cadre, on s'est dit, voilà, une carrière de marbre, c'est assez intéressant parce que, comme le disait Michel-Ange, quand il essayait quand il faisait ses sculptures, il disait qu'il essayait de sortir le corps du bloc. Je pense qu'il y avait quelque chose qui nous intéressait aussi à cet endroit-là. Et surtout, ça reprenait à la fois l'exploitation humaine de la terre et des ressources, parce qu'on peut utiliser le marbre pour faire des grandes œuvres, mais aussi pour faire des toilettes de luxe, j'en sais rien. Mais du coup, il y avait une espèce de dichotomie comme ça qui nous intéressait et dans laquelle on a pu vraiment déployer toute une histoire.
On va écouter un extrait de Room with a View. Hein, dans l'album, il est titré « Babel ». Vous êtes sur France Inter, nous sommes toujours à Marseille avec le collectif La Horde qui dirige donc depuis cette année le Ballet National. Là encore, multinationalité, comment est-ce que vous avez collaboré tous les trois avec ces danseurs et surtout avec Rhône, comment est-ce que vous avez composé le spectacle ensemble?
C'était beaucoup,
Jonathan de Brouwer.
C'était beaucoup d'aller-retour justement. Mm-hmm. On expérimentait des choses avec les danseurs, on filmait, entre-temps, il y a eu quand même les grèves de la SNCF, donc Erwan, du coup, Ron, ne pouvait pas forcément des fois venir à Marseille, ouais. Donc on a dû imaginer des stratégies. Donc il nous envoyait des petits bouts de musique. Donc nous, on expérimentait justement de notre côté au Ballet de Marseille, on lui envoyait. Et après, quand il a pu venir, justement, ça a été beaucoup plus rapide. Mais c'est vrai qu'au début, c'était beaucoup de va-et-vient, justement. Et quand il a été avec nous sur place, c'est sûr que c'était beaucoup plus riche. Parce que là, du coup, on a vraiment pu expérimenter
en
direct.
Là, vraiment composer ensemble. Lui essayait des choses, vos danseurs essayaient des choses.
Il a posé ses platines, il expérimentait en direct et c'était assez, assez jouissif justement de pouvoir travailler comme ça.
Vous avez quelque chose? Non, c'est bon.
Bah, pour la petite histoire, c'est vrai que l'invitation de Ruth McKenzie et Thomas Royol au Théâtre du Châtelet avec cette nouvelle direction a fait cette invitation à Rhône et on échangeait sur les réseaux sociaux, Instagram avec Erwan depuis quelques années. On avait très envie de se rencontrer et quand il nous a dit voilà, j'ai les clés du Théâtre du Châtelet pendant 2 semaines, venez, on écrit quelque chose ensemble.
Parce que c'est une carte blanche qui lui a été attribuée.
Ouais, totalement. Et on a dit, bah banco, allons-y. Et on n'était pas du tout encore nommé à la tête du Ballet National de Marseille. Et c'est entre-temps où on a décroché, du coup, cette nomination, qu'on a dit à Erwan, est-ce qu'on embarque le ballet avec nous? Et on a eu la grande chance de pouvoir recruter 13 nouveaux danseurs aussi. Donc de constituer, comme Marine le disait, une communauté éphémère qui pouvait nous ressembler aussi. Et donc, du coup, bah on a écrit cette pièce avec ces 18 danseurs. Et puis, l'extrême générosité, puissance et talent d'Erwan, on doit dire que c'est une rencontre humaine et artistique hors du commun.
Alors, cette rencontre, bon, il ne faut pas tout comparer toujours, mais je sais que vous allez travailler avec une chorégraphe qui s'appelle Lucinda Childs. Moi, je pensais à elle dans le rapport à la musique, à la synchronicité des corps, entre le travail entre le corps et la musique. On y pense hein, quand on voit Room with a View. C'est une chorégraphe que vous allez... Alors, je vais juste rappeler, hein, elle a créé de nombreux spectacles. C'est une des figures majeures américaines de la danse moderne. On peut parler notamment de Einstein on the Beach. Enfin bon, il y a énormément de pièces absolument géniales qu'elle a créées, et elle vient avec vous. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une pièce qu'elle a créée il y a une dizaine d'années pour le Ballet National, que vous reprenez, mais que vous associez à 3 autres chorégraphes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet qui est en train de se répéter? On a vu juste avant l'émission des danseurs répéter, donc avec une configuration très particulière, hein, contrainte sanitaire oblige, mais en tout cas, voilà, ils sont au travail pour cette pièce.
Bah, c'est vrai qu'on a eu envie pour notre premier programme. C'est vrai que un des passages obligatoires dans un ballet, c'est vrai, c'est de constituer un programme mixte qui dure 1h30 où on invite plusieurs chorégraphes avec des pièces courtes. Et on a eu très envie de faire exister 4 chorégraphes qui nous passionnent, dont le travail nous fascine
et qui est radicalement différent.
Et hein, qui sont radicalement différents à travers différentes générations, différentes esthétiques, avec des entrées comme ça qui nous permettent d'avoir un rapport à la danse très particulière. Et donc Lucinda Child a écrit une pièce en 2009 qui s'appelle Tempo Vincino qui nous a paru évident de réintégrer à ce programme. Et Lucinda est d'ailleurs venue au ballet et puis voir les danseurs jouer au Châtelet. Et puis on a eu aussi envie d'intégrer le travail de Tania Carvalho, Una Doherty et la Sandra Ninja.
Il faut un petit peu préciser hein, les univers très différents. Hein, Tania Carvalho qui elle entre la lisière entre l'expressionnisme, le cinéma, la Sandra Ninja qui elle est une des pionnières du voguing. Enfin voilà, c'est très et Una Doherty qui elle se met beaucoup en scène hein, dans quelque chose, dans un geste très théâtral.
Bah, qui elle essaye de décomposer les gestes du patriarcat et de la masculinité. Donc en fait aussi il y avait une espèce de volonté quand on a construit ce programme de faire des ponts générationnels et de faire des espèces de vases communicants de public pour les artistes. C'est-à-dire que une jeune artiste comme Una Doherty par exemple n'aurait peut-être pas pu remplir des grandes salles comme peut le faire Lucinda. Et donc pour nous c'était une manière de finalement mélanger des figures puissantes et reconnues à des figures plus émergentes pour faire un programme assez pluriel et qui puisse un petit peu répartir en fait le pouvoir
le public et puis qui raconte aussi quelque part une histoire de la danse.
Bien sûr.
C'est ce qu'on voit aussi, hein, avec des choses qui reviennent aussi entre les années 80, 90, 2000, 2010, comment les choses se réinventent et comment elles fonctionnent ensemble. Ça, c'est étonnant.
Oui, et puis c'est fascinant de voir aussi le pont que peut créer des formes comme peuvent écrire du Lucinda Child avec quelque chose d'extrêmement mathématique et géométrique, alors que Lucinda, à ses débuts de la Judson, expérimentait des formes extrêmement performatives et les formes que peuvent donner aussi le travail de la Sandra Ninja sur le genre, C'est une femme noire, trans, issue du voguing, qui est l'une des plus grandes moseurs en France et qui a importé le voguing en France et sa communauté. Et donc c'est vrai que de les voir travailler toutes les deux en studio à des moments différents avec les mêmes danseurs, ça crée une histoire et des situations passionnantes.
Marine Brutti, Jonathan de Brouwer et Arthur Harel, j'aimerais brosser votre portrait chinois, si vous voulez bien, inspiré notamment par le questionnaire de l'écrivain Max Frisch. Est-ce que vous acceptez de vous prêter au jeu?
Ouais.
Bon.
Allons-y.
Arthur, si vous étiez un geste.
Oh la vache.
C'est dur. Vous avez le droit de dire joker hein, si vous n'avez pas d'idée.
Un doigt d'honneur.
Ok. Jonathan, préférez-vous avoir raison seul ou tort au sein d'une collectivité?
Je préfère avoir tort.
Marine, lumière ou obscurité?
Aïe, 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 il n'y a pas de lumière sans obscurité et inversement, vraiment là, le gris.
À tous les trois, à quelle forme d'art ne pourriez-vous pas renoncer?
Ah. Aucune.
Arthur?
C'est pas une réponse collective?
Non, j'ai dit à tous les trois.
Je me rabats au collectif.
Non, mais vous avez le droit de passer votre tour.
Je passe.
Ok, Jonathan, vous voulez passer votre tour aussi?
Je dis comme Marine.
Ok. Arthur, craignez-vous davantage le jugement d'un ami ou le jugement d'une institution?
Ah, le jugement d'un ami.
Ah, pareil.
Marine, qu'est-ce qui vous remplit d'espoir? La nature, l'art ou la science?
Encore une fois, un peu d'étroit.
À tous les trois, de quoi êtes-vous reconnaissant?
Oui. Hein? On est reconnaissant à plein d'endroits. On est conscient qu'on a beaucoup, beaucoup de chance d'être à la place à laquelle on est aujourd'hui. Et donc, on fait que checker un peu notre privilège à cet endroit-là. Et donc, toute la question de l'empowerment et de pouvoir rétablir des égalités là où elles sont difficiles et systémiques, eh ben, c'est un peu notre mission au sein du Ballet aujourd'hui.
Le Mac de l'été sur France Inter.
C'est le moment de nous pencher sur l'actualité culturelle des jours à venir, des rendez-vous repérés par l'équipe du Mac de l'été. L'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, dirigé par le chef slovène Marco Letonia, retrouve enfin son public. Pendant tout le confinement, l'orchestre a redoublé d'imagination pour garder le lien avec son public, notamment à travers des enregistrements vidéo à distance. Mais demain soir à 20h, c'est bien en chair et en os, et tous ensemble, que les musiciens vont pouvoir jouer face à leur public. Masqués et distanciés, mais bien présents. Pour ces grandes retrouvailles, une programmation qui court sur 3 siècles et fait appel à tous les pupitres de l'orchestre dans des formations variées, Copland, Debussy ou encore Queen, un avant-goût des propositions très éclectiques de la saison prochaine.
Avec ses espadrilles et ton foulard autour du cou, qu'elle est gentille, la fille de chez nous.
Une autre bonne nouvelle pour la culture aujourd'hui, c'est la réouverture du MUCEM. Depuis ce matin, le musée marseillais accueille de nouveau les visiteurs masqués tous les jours de 10h à 20h, sauf le mardi. Plusieurs expositions sont à découvrir, dont une sur 5 vêtements qui ont traversé le temps et les modes. Le débardeur, le bleu de travail, le kilt, les espadrilles et le jogging. Un parcours autour de 200 pièces de textile, en dialogue avec des dessins, des films et des archives. De quoi se rappeler que les vêtements constituent un patrimoine vivant dont on aurait tort de sous-estimer l'épaisseur historique et symbolique. Les choses qu'on dit et les choses qu'on fait. C'est le titre du nouveau film d'Emmanuel Mouret, attendu en salle le 16 septembre prochain. Il y a 2 ans, le cinéaste marseillais nous avait séduit avec son film Mademoiselle de Jonquière. Dans son prochain film avec Camélia Jordana, Nils Steder et Vincent Macaigne, il met en scène l'histoire de Daphné, enceinte de 3 mois, en vacances à la campagne avec son compagnon François. Celui-ci doit s'absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin, qu'elle n'avait jamais rencontré. Pendant 4 jours, en attendant le retour de François, Daphné et Maxime font connaissance et se confient. Ce film fait partie de la sélection officielle de Cannes 2020. Je suis allée ce matin à la rencontre du réalisateur.
Bonjour Emmanuel Mouret.
Bonjour Anna.
Merci beaucoup d'être avec nous sur France Inter dans le Mac de l'été. Alors on est ici à Marseille. Marseille, c'est chez vous. Vous travaillez bien sûr régulièrement à Paris, mais vous vivez, vous écrivez, vous rêvez vos films ici.
C'est vrai que je vis entre deux villes qui n'ont absolument rien à voir. Alors je rêve mes films à Paris comme à Marseille ou beaucoup dans le train. J'aime vraiment la vie à Marseille parce que justement elle n'a rien à voir avec celle de Paris que j'aime aussi beaucoup.
Votre nouveau film qui s'appelle « Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait » va sortir le 16 septembre. Nous avons eu la chance de le voir en grande exclusivité, hein. Pour l'instant personne ne l'a vu. C'est un film qui est en sélection officielle au Festival de Cannes, hein. Il a ce label cannois. C'est un film, je dois dire, que j'ai vraiment adoré. Un film dans lequel il y a, comme toujours c'est chez vous, cette écriture très très particulière qui est loin du naturalisme, une langue qui est très écrite, qui est très construite, qui est assez littéraire. Alors il y a des personnages, il y a des acteurs qu'on pourrait dire mouretiens, comme on dit des acteurs, je sais pas, garéliens ou romériens, mais là il se trouve que vous faites appel à des nouveaux acteurs comme Camélia Jardena, comme Vincent McCain, comme Neil Schneider, avec lesquels vous n'aviez jamais tourné, et on les découvre avec votre langue de façon assez inédite. Comment est-ce que vous arrivez à faire entrer cette langue dans la bouche et dans le corps des acteurs quand c'est pas forcément évident de prime abord?
J'ai absolument pas conscience d'avoir une langue particulière. J'essaye de raconter une histoire qui a peut-être des situations particulières. Et je pense que c'est plus une histoire de situation particulière. Il n'y a aucun désir ni de paraître littéraire, ni de faire du style. Au contraire, on cherche un certain naturel.
Oui, mais c'est quand même très très écrit et on sent que ce qui est dit par les acteurs est rigoureux et extrêmement précis.
Oui, parce que je considère, alors les mots un peu comme, bien qu'on dit les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, quand on prononce quelque chose, ça a de l'effet. Ce qu'on dit peut ressembler à des gestes au fond, et on peut en effet meurtrir quelqu'un d'un mot ou le ravir d'un autre. Donc les mots ont une importance dans l'intrigue, comme le serait dans une intrigue policière lorsqu'on interrogerait quelqu'un, oui.
Alors dans ce film, moi j'ai vu un petit peu l'inverse de votre précédent film, Mademoiselle de Jonquière, où il était question d'une vengeance froide, de quelque chose d'extrêmement calculé. Là, on a le sentiment que c'est des personnages qui sont complètement à cœur ouvert et qui sont débordés par leurs sentiments.
Oui, ce sont des personnages qui aiment l'amour, qui parfois aiment un peu trop. En revanche, je trouve qu'il y a un point commun avec Mademoiselle de Jonquière, puisque, alors, je voudrais pas, comment dire, révéler trop de choses, mais il y a aussi l'histoire d'une revanche, mais qui se passe d'une manière, on va dire, tout autre.
Alors, il y a la musique qui est très très présente là dans le film, beaucoup beaucoup de musique classique, enfin exclusivement même de la musique classique. On peut parler de l'Adagio de Barber, il y a des valses de Chopin, il y a une mazurka de Chopin, il y a Peer Gynt de Grieg, et c'est vraiment la musique intérieure des personnages.
Alors moi j'aime bien cette idée de parler de la musique un peu comme une voix off sentimentale, parce qu'elle exprime quelque chose évidemment qui se dit pas nécessairement par des mots. Je trouve que la musique accélère souvent les récits, puisqu'on rentre de suite dans un sentiment, qu'il soit le sentiment de personnage ou le sentiment de la scène. Et en même temps, elle correspond un peu à la variété des récits, puisque c'est un film qui est au départ fait d'une multiplicité de récits qui vont converger les uns vers les autres. Mais il nous semblait intéressant justement que les natures, on va dire, des personnages qui incarnent ces différents récits soient incarnés aussi par des compositeurs différents. Voilà.
Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait va sortir le 16 septembre au cinéma. Merci beaucoup Emmanuel Mouret.
Merci.
Le Mac de l'été sur France Inter.
Take Me As I Am de Prince Fatty, playlist France Inter dans le mag de l'été. Merci beaucoup Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel, le collectif La Horde, d'avoir été avec nous sur France Inter pour notre première du Mag de l'été. Merci à l'équipe du Ballet National de Marseille pour leur accueil et à Mathilde Incerti. Cette émission a été préparée par Élodie Royer, Maud Ventura et Camille Poux-Jalaguier. Elle a été réalisée par Clément Baudet. À la prise de son et à la technique aujourd'hui, Christophe Michou, Fabien Gosset et David Abécassis. Et à la programmation musicale, Djoubaka. Un grand merci aussi à notre chargée de production, Sandrine Bréchaud, qui rend possible notre périple. On vous donne rendez-vous demain avec Alain Damasio dans les Calanques. Après le journal, vous retrouverez Le Téléphone Sonne avec Pierre Veille. On vous souhaite une bonne soirée sur France Inter.